Minute éducative sur RCN, animée par le clown Chamallow et David Richard.
Bonsoir, chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver en direct le mercredi ou alors en podcast. N'hésitez pas, je sais que nos émissions, il y a des auditeurs qui les écoutent en boucle toute la journée. Je sais pas si c'est le cas pour la réussite éducative, hein, on va en reparler. En tout cas, merci Jean-Luc à la technique, merci chers auditeurs d'être toujours là au rendez-vous. Comme promis, c'est le retour de David, il nous avait fait faux bond quelques émissions, mais il est là, ça va David ?
Oui, mais j'ai pas fait de faux bond, puisque tu racontes.
Non, mais c'est moi qui ai dit ça la semaine dernière.
Ouais.
Parce que comme on a enchaîné plusieurs vies associatives, j'ai fait croire que c'était ta faute.
C'est ma faute.
Mais en vérité, je l'aurais aussi dit aux auditeurs, je sais pas s'il y en a beaucoup qui écoutent du coup, c'est qu'on va enchaîner, chers auditeurs, 4 réussites éducatives d'affilée. Et là, ça te met une pression, David.
Bon, même pas.
Même pas. Il est zen.
Là, tu vois, je suis dans un niveau d'impréparation qui fait que je peux être que tranquille finalement, parce qu'il va rien se passer.
Ouais, mais là, t'as un bon café. Parce que je t'avoue qu'on a préparé à deux le café, et comme on savait pas le préparer, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne moi, il paraît, d'après Jean-Luc, que j'ai mis un peu trop de café. Voilà, chers auditeurs, vous savez tout. J'aime bien les émissions qui démarrent comme ça, parce que vous avez vous savez tout, le revers du décor de derrière les coulisses. Je trouvais plus l'expression.
Ça s'est entendu.
Aujourd'hui, donc, ah oui, si, petite tradition quand même, juste, je rappelle, l'émission la semaine dernière que vous retrouverez en rediffusion, un podcast, j'avais reçu l'envie associative, on avait parlé de beaucoup de choses, on avait notamment parlé du Téléthon, puisque vous savez que vous pouvez dès à présent signer les contrats pour le Téléthon 2026, si vous appelez la coordination 54 qui se trouve à Vendeuvre, en Nation, vous pouvez déjà signer vos contrats, et avec l'association Les Petites Grandes Âmes, nous ne sommes pas peu fiers que d'avoir signé le contrat 002, en vérité le 001, mais c'est le 002 parce que le 001 est celui de la coordination elle-même. On est très fiers de ça, bien que les cagnottes, bien sûr, ne sont pas encore ouvertes, car le Téléthon démarre au 1er juillet. Mais on peut déjà, si vous avez une idée, par exemple, chers auditeurs, aller vendre des crêpes sur une place du village, faire un événement sportif et tout, vous pouvez déjà, si vous avez déjà regroupé un peu, à la fois organiser la manifestation, regrouper les bénévoles, etc., etc., vous pouvez contacter la coordination et signer les contrats et commencer déjà à avoir, un site correspondant qui vous permet d'annoncer sur la force T, c'est-à-dire le site de la coordination et du Téléthon, annoncer vos événements. En tout cas, nous, on vous tiendra maintenant régulièrement au courant de la progression de notre contrat Téléthon dont on parle chaque année ici. Vous le savez, l'année dernière, il y avait la montée du Ventoux, il y avait une animation devant le King Jouet, il y a eu un triathlon, deux événements sportifs d'ailleurs qui avaient été faits avec Julien de RCN que l'on salue et qu'on retrouvera très bientôt à l'antenne dans la vie associative. Pour l'instant, vous pouvez déjà aller voir sur le site du Téléthon et vous verrez, il y a déjà indiqué notre manifestation qui sera faite comme l'année dernière de plusieurs actions, bien sûr une mosaïque du 1er juillet jusqu'à fin février lorsque s'arrêteront toutes les cagnottes du Téléthon. Et déjà prévu une montée du Ventoux en juillet ou en août, mais on donnera la date exacte avec Julien. Voilà. Et la semaine dernière, on a parlé de beaucoup de choses, dont le Téléthon, le secours populaire, et j'avais eu en insert téléphonique en ligne une amie qui est la présidente de l'association Greenchild. Magnifique association, qui essaie d'apporter du bonheur, joie aux enfants et qui agit notamment pour une maladie, comment on appelle les maladies rares ? Ouais, c'est ça, une maladie rare. Merci David. Je cherchais l'expression, mais je tombais dessus par hasard. Tout ça, vous pouvez réécouter en rediffusion. Moi, je vous donne quelques infos avant de vous donner la douce voix mélodieuse de David qui va vous faire part de son impréparation. Je reprends ton terme tout à l'heure.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Hein. Non, c'est pas vrai. Parce que
ce sera la thématique d'ailleurs.
C'est ça. Ça, c'est pas mal. Oui, quelques infos très, très, très rapides. On arrive dans les mois très chargés pour notre association, Les Petites Grandes Âmes, mais en vérité, je pense pour toutes les associations, puisque en fin d'année, il y a toutes les kermesses, tous les spectacles de fin d'année, etc. Il y aura bientôt la fête des associations à Vendeuvre aussi. Enfin, il y a plein de choses. Donc, vous n'hésitez pas pour rencontrer Les Petites Grandes Âmes. C'est sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. Vous pouvez nous rejoindre tous les lundis entre 17h et 19h à la MJC Bourgogne. C'est celle qui se situe en haut de l'avenue Boufflers. Ça, c'est pour nos cours de cirque, mais aussi pour venir discuter avec nous. Vous savez que le 29 juin, on va reparler du 29 juin avec un des invités qui est déjà en plateau, mais on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai pas envie de procéder autour de table un peu trop tôt. Mais quand même, on en reparlera. Le 29 juin, vous savez que vous avez, et c'est entrée libre, le spectacle de fin d'année de l'association Les Petites Grandes Âmes, grand spectacle de cirque Entrée libre, MJC Borga, début du spectacle 17h45, avec une super première partie, et ensuite un spectacle d'une heure, une heure et quart de cirque, comme chaque année. Donc c'est le 29 juin, entrée libre, après il y a un pot, tout ça, c'est la fête, des chips, des bonbons, des machins, des trucs. Un spectacle haut en couleur pour petits et grands, et le 13 juin, on ira animer, donc c'est un peu avant, on ira animer, bien sûr, Étoile Partagée, c'est-à-dire l'action de la MJC Étoile, organisée par le directeur du centre de loisirs, mon ami Pop. Il faut y aller, je l'avais dit la semaine dernière, parce que la MJC Étoile, vous savez, bientôt sera capoute, puisque d'ici 2027, il va y émerger des soldes de vendeurs, une nouvelle grande MJC qui va englober plusieurs, etc., etc. Et moi qui aime tellement la MJC Étoile, je trouve ça super chouette, alors autant y aller le plus possible. Donc ça, c'est le 13 juin. Le 27 juin, mais là, vous n'êtes pas conviés, parce que c'est, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, mais je vous le dis pour montrer les actions de notre association. Le 27 juin, on ira animer la journée des familles de l'AFM Téléthon. Donc ça, c'est la journée des familles, donc ça, c'est pour les familles qui sont au Téléthon, mais on ira animer. Et dernière petite chose, parce que je vois David qui fait des traits, tout ça, donc je me dis, il doit être prêt, là, il est en train de stabiliser, donc voilà. Non, il n'est pas prêt du tout.
C'est le thème, on a dit, l'impréparation.
Ah oui, bah donc c'est bon, donc t'es prêt dans ton impréparation. Le 16 juin, avec l'association, nous irons à l'hôpital d'enfants Brabois pour animer les 1 an, la fête des 1 an des jardins. Le nouveau petit jardin qui est au pied de, là, comme ça, à droite, quand vous rentrez dans l'hôpital d'enfants de Brabois, là. Vous savez, l'année dernière, avec RCN, d'ailleurs, on avait été pour l'inauguration des jardins avec nos amis des Blues Roses, etc. On les embrasse, on les salue, on les recevra bientôt à la radio. Donc ça sera le 16 juin. N'hésitez pas à venir, comme ça, vous balader. Voilà, à l'hôpital d'enfants de Brabois pour les jardins. Voilà. Et entre-temps, bah là, je crois que... voilà. Et la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, parce que là, pendant 4 fois, vous allez avoir réussite éducative. Donc, dans 5 émissions, j'essaierai de recevoir une association fort sympathique que j'ai découvert il y a une semaine devant le King Jouet de Woodmont. On salue le King Jouet de Woodmont parce qu'ils sont sympas et ils ouvrent toujours leurs portes. Nous, pour le Téléthon, mais là, c'était une association nouvellement créée, il y a 4 mois à peu près, et qui, alors, c'était leur première action, et collecter des jouets neufs pour apporter aux enfants de l'hôpital d'enfants. De fil en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait des amis communs à l'hôpital d'enfants qui travaillent là-bas. Et du coup, de fil en aiguille, eh bien, le 15 juillet, quand ils iront remettre tous les jouets qu'ils ont collectés à l'hôpital officiellement, eh bien, avec l'association Les Petites Grandes Âmes, on ira offrir un petit spectacle dans le hall. Voilà, avec, je l'espère, il faut encore que je vous demande, mais avec, je l'espère, dans le spectacle, on l'a souvent fait, mon ami Mr. Jack, le magicien des Blues Roses, le magicien qui va tous les jours dans les chambres d'enfants apporter bonheur, magie, couleur, joie, etc., etc. Voilà, donc vous voyez, on n'arrête pas. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, sur le Facebook. Et tout de suite, je me tais. Je laisse place à la réussite éducative avec ses merveilleux invités, toutes ces merveilleuses pauses musicales. Qu'est-ce que t'en penses, David ?
J'ai pas fini de stabiloter. Je sais pas si je peux.
Ah, tu dis comme mes élèves, toi, stabiloter.
Stabiloter.
C'est moi qui dis stabiloser.
Stabiloser.
Ouais, je sais pas pourquoi. On me dit que c'est nul, mais je sais pas.
Déjà que stabiloter, ça existe pas. Alors toi, tu fais. T'arrives. C'est incroyable. C'est une émission libre, on va dire, dans ces cas-là, hein, quand effectivement, il y a de la préparation. On reçoit, heureusement, ce soir, Tilio, encore, toujours, avec plaisir, qui se trouve là, qui occupe un espace dans ce studio. Oui. Et qui va nous faire un petit peu... On fait un petit coup d'actualité, des choses à dire ou pas spécialement?
Pas tant.
Mais je te laisse y aller, t'as l'air d'être parti quand même.
Pas tant, mais hop.
Quand même une petite histoire à raconter à propos du morceau que je vais faire.
Ouais,
c'est un morceau qui s'appelle Rosière aux Salines et ça part d'un défi avec un ami à moi, pour ceux qui se connaissent en géographie un peu autour de Nancy, qui habite à Blainville-sur-Leau, et il m'a dit même pas cap de faire une ville, enfin un son sur une ville à côté de chez moi, et je lui ai dit ça veut dire quoi même pas cap, et puis j'ai fait le son.
Mais c'est cool. Il y a très très longtemps, on en a déjà parlé quand j'avais un groupe avec de punk, on va dire, avec des copains, on avait fait une chanson sur Rosière aux Salines. C'est rigolo. Et sur Flavigny aussi, on a fait. Eh ben, ça se croise, on dirait pas quand même. Hein, voilà. Est-ce que c'est la fin de ton explication officielle?
C'est la fin.
C'est la fin officielle. Ça veut dire qu'on va officiellement pouvoir lancer le morceau. Parce que je sais que tu es un peu pressé, comme souvent, lors de nos émissions.
Oui. Elle venait de Rosé Rosaline. Elle esquivait les salauds pour que je lui passe le salam. À la vue de ses bras, combien de fois je gambergeais en voyant les traces qu'elle laissait avec sa lame. Elle venait de Rosé Rosaline. Elle esquivait les salauds pour que je lui passe le salam. À la vue de ses bras, combien de fois je gambergeais en voyant les traces qu'elle laissait avec sa lame. Elle venait de Rosé Rosaline. Elle a des copines qui la salissent. Des cumés qui la trahissent. Je vois dans leur regard tous ces gens qui la haïssent. Ouais. Elle a déjà fait ses valises. À l'opposé de Jay, elle met sa balise. Elle fait l'annonce et tout se radicalise. Elle est partie de Rosière Rosaline. Reviens à Rosière. Reviens à Rosière Rosaline. Elle est partie de Rosière Rosaline. Reviens à Rosière. C'était ma rose hier. Yeah. Yeah. Reviens à Rosière Rosaline. Que je tabasse les mecs qui te salissent. Que tu lâches cette lame. Que je te repasse le salam. Reviens à Rosière Rosaline. Que je tabasse ces mecs qui te salissent. Que tu lâches cette lame. Que je te repasse le salam. Elle venait de Rosière Rosaline. Elle esquivait les salauds pour que j'y passe le salam. À la vue de ses bras, combien de fois je gambergeais en voyant les traces qu'elle laissait avec sa lame. Elle venait de Rosière Rosaline. Elle esquivait les salauds pour que j'y passe le salam. À la vue de ses bras, combien de fois je gambergeais en voyant les traces qu'elle laissait avec sa lame. Elle est partie à cause des gens sales. Elle m'a laissé souvenir en me laissant sa lampe. 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 Mais je suis pas le génie d'Aladin. Je repense à tous les mauvais qui lui disaient on va te casser les dents. Ouais. Elle est partie de Rosière Rosaline. Reviens à Rosière. Reviens à Rosière Rosaline. Elle est partie de Rosière Rosaline. Reviens à Rosière. C'était ma rose hier. Ouais.
Oui, voilà.
Ah, non, mais c'est chouette, non? Yeah. Le silence après Mozart, c'est encore du Mozart. Bah, le silence après Tullio, c'est encore du Tullio. C'est... Non, mais c'est vrai, c'est.
Wow. J'aime bien parce que ouais. C'est depuis que tu viens ici chanter, nous proposer des morceaux, c'est la première fois qu'on entend aussi bien ta voix.
Ah ouais?
Ouais. Je trouve que là, ta voix, comme t'es sur un rythme plus. T'es sur quelque chose de plus posé et tout, on entend vraiment ta voix. Et je sais pas comment tu l'as interprété, si c'est volontaire ou pas, mais. Parce que c'est le principe d'un artiste aussi de transmettre des émotions qui sont pas forcément les siennes. Mais en fait, j'ai senti un truc là à un moment. Enfin,
c'est un petit peu le but du son, oui, en effet.
Ouais, bah, ça marche super bien. Waouh. Alors là,
le tout début, j'allais justement le dire, il est excellent parce que il y avait l'impression que tu, il y avait une sorte d'émotion qui toi-même faisait une sorte de, voilà, on sentait que ça... et plus encore une fois, ouais, il a raison plus que d'habitude. D'habitude, c'est beaucoup le texte, voilà. Et là. Vraiment, ça m'a bluffé. Parce qu'on sentait que c'était presque à la limite des fois que t'avais. Ou des larmes qui montaient.
Non, mais tu le fais, c'est, ouais.
Je sais pas. Je la phrase. Je vais faire un petit. Je vais vous lire la phrase qu'a écrit Jean-Luc. Il a mué ou il est enrhumé. C'est très marrant. un peu des deux.
Un peu des deux.
Mais voilà. Franchement, le son. Je me suis dit que j'allais faire un son d'amour et j'ai eu directement la phrase en tête et je place une petite dédicace à mon copain Loboel qui m'a donné l'idée de vraiment poser ma voix un jour sur un son et puis je l'ai fait et puis j'ai vraiment aimé faire le son donc merci.
Ah, c'est super efficace, moi je trouve bravo. On va te laisser voler vers d'autres aventures, j'ai bien compris. Reste le temps que tu veux, le temps que tu peux, mais voilà, n'hésite pas à décoller au besoin.
Et juste pour te dire au revoir, moi je vais lui dire au revoir d'une certaine façon parce que tout à l'heure j'ai fait une allusion à Tullio sans dire que c'était Tullio au moment du tour de table. Hein, quand t'avais compris toi Tullio. Hein. Je vais quand même dire aux auditeurs, plus il vient ici, c'est un petit moment maintenant qu'on le supporte, non? C'est grâce à toi David en plus qu'on le supporte.
Ça fait 4 ans.
4 ans, on t'a vu encore une fois, puis David a raison de dire que c'est comme le bon vin là. Moi je connais rien, c'est juste pour prendre une expression, mais il y a une bonification dans l'émotion, dans la voix, dans plein de trucs, hein, dans l'écriture aussi. Je crois que le texte c'est waouh. Mais ça je l'ai toujours dit donc je répète pas. Mais je le dis quand même aux auditeurs, et à chaque fois, plus les mois passent, plus ce monsieur a une notoriété qui grandit. Et là il m'a scotché tout à l'heure, parce que tout à l'heure je lui dis, tu sais, à une époque je m'étais dit ouais ok ça va le faire, je dis à Tullio tu pourras me faire la première partie du spectacle de fin d'année parce qu'on te réclame depuis l'année dernière tout ça. L'année dernière il m'a dit ouais ok c'est quand, Entre temps, il a fait des fraises et j'en passe et des meilleurs, tu vois. Et là, tout à l'heure, il me dit, je sais pas trop, attends, je regarde mon agenda, ouais. Ah non, là ça va pas, là j'ai ça, là. Ah bah ça va pas être possible cette année. Voilà, bon, c'est là qu'on voit que... Mais la prochaine fois qu'il va venir, carrément il va me dire, non mais là, non, la radio, peut-être pas, on a un certain téléphonique à la rigueur, mais... Non, ça y est, l'emploi du temps, il se remplit là.
Ouais.
Non, en tout cas, non, mais c'est une manière de dire bravo.
Juste avant partir, j'aimerais juste dire que au fil du temps, j'ai eu recours à un changement de pseudo parce que Tilio c'est un prénom. Je l'ai appris il y a pas si longtemps. Tilio c'est un prénom qui est quand même assez répandu. Ouais, et la mode en généralement dans le rap c'est des pseudos en trois lettres assez courts. Et du coup mon pseudo c'est plus Tilio, c'est TLO.
C'est bon à savoir.
TLO. On essaiera de le dire dans plein d'émissions pour que ça rentre dans l'inconscient collectif comme on dit, de manière un peu pédante. Mais c'est ça. Ok TLO.
Eh ben merci.
Et tu salueras au max pour nous.
Bien sûr.
Il était question là. Est-ce que tu pourrais juste nous redonner quel est le titre de cette
cette musique? Elle est disponible sur SoundCloud. Elle s'appelle Rosie Rosaline et du coup T de TLO.
Bon bah voilà, super. De TLO hein, en fait.
Oui.
Ouais, d'accord, ok. Eh ben parfait. Merci à toi. Et à bientôt.
Merci Tilo.
Bon,
c'était chouette. Hein.
Ouais, il va falloir. C'est toujours pas, il va falloir enchaîner derrière.
Bon.
17h-18h, réussite éducative sur RCN.
Voilà, je me suis fait surprendre par le jingle.
Par le jingle bam, bam, ouais, mais c'était bien, ça nous fait une petite coupure parce qu'il y avait l'émotion.
Il est arrivé sur le dos, dans pleine nuque, tu sais.
Non, mais c'est sympa, c'est sympa. Je pense que c'est une des chansons que, en public, tu vois, quand il est en concert, là, je parlais de la première partie, la dernière et tout. Parce qu'il y a une vraie transmission, là, je pensais à Jacques Brel ou à Arnaud,
ouais,
tu sais.
Ça peut être terrible, quoi.
Ouais, une transmission d'émotions à partager avec des gens en face, c'est sympa, quoi. Non, bah, super. Alors là, j'ai un peu peur parce que je vais, du coup, te dire, et maintenant? Mais je suis pas sûr que t'es un rien maintenant, si.
Mais non, tellement pas. C'est une catastrophe, ce truc. Non, en fait, moi, je me disais qu'on pouvait s'intéresser peut-être un petit peu. C'est une de mes thématiques de secours, voilà, pour expliquer cette émission-là. Quelques difficultés font qu'elle était, elle était difficile à préparer. J'ai voulu, enfin, elle était difficile, elle était impossible à préparer en termes de temps. J'ai voulu la maintenir parce que, bah, on sait un petit peu faire. Et puis, je trouve que c'est toujours un peu triste quand on est amené à faire des rediffs. Et il y a un truc, moi, qui me fascine, qui me travaille. Par exemple, on l'avait avec Tess Black, à l'époque de Tess Black.
Ah oui, ça fait un moment qu'elle n'est pas revenue. Je crois que ses horaires permettent plus.
Voilà, elle grandit aussi, hein, et puis maintenant, elle bosse, elle a fait des stages et tout, machin. Donc, bah oui, effectivement, elle a plus les mêmes dispos qu'avant. Mais on était face à quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination.
Ouais.
Et on a entendu plein de jeunes avec plein d'imagination. Et moi, ça fait 10 ans, plus de 10 ans maintenant d'ailleurs, que sur le secteur, je rencontre plein de jeunes qui ont beaucoup plus d'imagination que ce qu'on croit ou que ce qu'on dit, ou que ce qu'eux-mêmes montrent. Ça, c'est ça aussi.
Ouais, c'est
et je me disais que c'était un thème qui pouvait être un petit peu intéressant à travailler. Alors, malheureusement, effectivement, j'ai pas d'invité autour de ça. De toute façon, c'est très compliqué de faire parler des enfants ou des ados sur ce sujet-là. Je désespère pas que ça puisse se faire. Mais je pourrais presque commencer par une question. C'est comment ça fonctionnait pour toi quand t'avais. On va dire quand t'avais 6 ans, comment t'imaginais les années 2020? À quoi ça ressemblait? Est-ce que tu les imaginais d'ailleurs simplement?
Alors, je pense pas du tout. C'est.
En tout cas, comment t'imaginais le monde quand tu serais grand?
En fait, c'est curieux ta question parce que j'ai pas de souvenir que j'avais une projection autre que celle que les enfants ont dans la notion, le ludique, c'est-à-dire dans les jeux. C'est-à-dire une espérance dans des réussites, tu sais, ce qu'on fait dans les jeux, c'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le monde veut être footballeur ou je sais pas quoi,
ouais.
Ce qui n'était pas trop le cas à mon époque. Moi, je rêvais de gagner le Tour de France, donc tu me diras, c'est pas très éloigné.
Là, tu vois, par exemple.
Ouais, mais beaucoup, hein, avec comment on dit, il y a une expression, je crois qu'on dit, il se fait des films ou quoi. Mais c'est vrai que quand on est petit, on est beaucoup dans ce genre de choses-là. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, hein. Mais voilà, c'était plus ça, pas le monde en tant que. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, et je trouve que les enfants. Très petits, parce qu'autour d'eux, on parle beaucoup de ça, c'est-à-dire de l'environnement, de comment sera le monde. Et je vois Adèle, elle me parle des fois de ça. Plus tard, j'espère que le monde sera comme ça. Moi, j'ai pas souvenir que ça allait au-delà d'une réussite personnelle. Enfin, pas réussite au sens péjoratif, hein, comme quand les adultes, ils pensent qu'à leur réussite personnelle, mais une sorte de projection dans une espérance de réussite ou de devenir quelque chose de quelqu'un. Tu sais, le pompier, le cosmonaute, le truc.
Mais...
Et j'ai l'impression que tous mes jeux étaient beaucoup tournés vers une sorte de mimétisme de ce que j'espérerais être plus tard. et je sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression de ça. Je sais pas si ma réponse te va, hein, parce que j'improvise.
Ah ouais, hein. Si, c'est effectivement, je t'ai pas prévenu avant que je te poserais cette question qui est pas simple.
Non, elle est pas simple. Et après, je me trompe peut-être tellement c'est loin. Mais...
Et une autre question, est-ce que toi, tu avais, est-ce que tu t'es construit un monde des amis imaginaires?
Ouais.
Et si oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est ça qui m'intéresse. Et c'est aussi ce que je demanderais à d'autres enfants, tu vois, le lapsus que j'ai. Ouais.
Non, mais c'est bien, parce qu'il paraît que j'ai le syndrome de Peter Pan, donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'aurais deux manières de participer à la thématique que tu nous fais aborder ici. C'est d'une, ma pensée aujourd'hui en tant que pseudo-adulte, par rapport à tous les enfants, les miens, les trois miens, les enfants que je côtoie des fois dans les trucs de cirque et qui m'en parlent. C'est-à-dire l'idée que j'ai de par rapport à ta thématique. C'est-à-dire que j'ai bien vu mes enfants, ils ont toujours eu des amis imaginaires, etc. Et je vois à quel point c'est important. Aussi pour vaincre des fois des peurs, des angoisses nocturnes, pouvoir parler des choses dont des fois on les entend parler dans une pièce à côté, on se rend compte que ça leur permet aussi de dire des choses qu'ils osent pas forcément dire, etc. Enfin, je pense qu'il y a plein d'enjeux et plein de fonctions à cet ami imaginaire. Donc là, je participerai à cette émission en tant que ce que j'ai pu constater chez d'autres. Mais moi, c'est compliqué ta question pour moi parce que à l'époque, 6 ans, je commençais à vivre depuis déjà 2 ans à peu près, mais je vivais des horreurs dont j'ai déjà parfois parlé dans Vie Associative pour d'autres raisons, quand j'ai reçu France Victime 54, quand je parlais de ma maman, tout ça. Et donc, je vivais des horreurs qui font que j'avais forcément... Oui, j'avais effectivement je parlais à des amis imaginaires, mais c'était pour vaincre des violences, des choses comme ça, des trucs effrayants. Et je me rends compte, oui, qu'il y avait une nécessité d'avoir quelqu'un qui était là et qui, voilà, de pas avoir l'impression de vivre seul les horreurs comme ça. Et je pense que ça, il faudrait, dans ta thématique, il y a ça aussi. Je pense que suivant les vies de chacun, ça peut être aussi un soutien, un apaisement dans le cas d'horreurs. Toi, par exemple, aux horreurs que je vivais, j'ai dit l'autre jour, j'en parlais avec Adèle, c'est marrant, quand j'étais petit au Champ-le-Bœuf, j'avais une idée que ce que je vivais... comment dire, aller forcément avancer, que j'étais là pour une raison particulière, que j'étais sur la terre pour une raison, pour accomplir une fois, c'est un truc totalement absurde quand j'en parle aujourd'hui, ça me fait sourire, mais que j'étais là pour une raison, etc. J'essayais de donner du sens à l'existence, que ça pouvait pas être que la vie, etc. Et donc du coup, je pense que mes amis imaginaires, ils étaient liés à ça, c'est-à-dire qu'ils me rassuraient, quoi. T'inquiète pas, c'est peut-être pas ça la vraie vie, etc. Mais comme quoi, il y a plein d'enjeux dans ces amis imaginaires, en fait.
Non, bah c'est important. Ouais. Après, je te pose des questions là un peu pour lancer le sujet. Moi, ce que j'ai fait pour impréparer cette émission, c'est que j'ai un peu repris, parce que je me note assez régulièrement des choses que les enfants me disent, que j'entends, soit dans une discussion qu'on a avec eux, soit qu'on les entend dire entre eux, ou des trucs comme ça. En disant, j'en ai quand même pas mal. Je me suis fait quelques feuilles. Mais je vais commencer en fait par une chose, parce que on parlait de l'imaginaire. Des jeux que les enfants s'inventent et puis des jeux dans lesquels il y a souvent des bagarres quand même, ça revient souvent.
Ouais,
il y a des gentils qui se battent avec des méchants, ou il y a des... moi je vais commencer en fait avec ma fille, finalement c'était en 2022, à l'époque elle avait 4 ans de moins que maintenant, donc elle avait 6 ans, elle était avec une copine et elle m'expliquait en fait le jeu dans lequel elles étaient, elle m'expliquait on serait 2 sœurs très pauvres qui vivent dans la montagne dans une maison en bois, on devrait s'occuper de nos 3 petits frères, on aurait juste un puits et des seaux d'eau et un peu de lait et un mini champ de blé, on aurait un peu d'argent pour envoyer nos petits frères à l'école. C'est marrant, cette importance d'envoyer les petits frères à l'école. On aurait juste un petit canapé pour faire dormir tout le monde. Nos parents, ils nous auraient abandonnés. Alors ça, c'est le classique aussi. Jeux, les parents sont morts. Oui, ils les ont abandonnés. Ils nous auraient abandonnés. Ils auraient décidé de mourir pour jamais nous revoir parce qu'ils nous aimaient pas. Et ça serait la guerre, parce que ce serait dommage de s'arrêter là. Et on accueillerait des gens blessés qui meurent de faim et qui se réfugient dans la montagne. Et on aurait quand même un ordinateur pour regarder des films la nuit quand c'est l'hiver et qu'il y a trop de neige pour aller dehors. Et dans le jeu, on apprendra à devenir des guerrières pour pouvoir se défendre s'il y a des soldats qui viennent. Là, il y a eu un petit temps où elles sont parties jouer. Et puis après, dans leur jeu, moi je les entendais. Après, il y a des soldats qui sont venus les attaquer. Elles les ont tués avec leurs couteaux. C'est quand même voilà, une scène de bagarre d'à peu près 3 secondes. Hein. Et je cite la copine, comme on est pauvre et en plus ils sont morts, on peut leur voler ce qu'ils ont dans les poches. Sinon, en vrac aussi, elle cherche un garçon pour s'occuper du ménage parce qu'on peut pas tout faire. Et si en plus on a... comment c'est ? Parce qu'on peut pas tout faire. Et si en plus on doit se combattre avec les soldats, ça va être compliqué. Elles ont aussi sauvé un enfant qui avait été oublié dans les égouts par ses parents. Et après mis en prison par des soldats. C'est extrêmement sinistre toute cette histoire, espèce de truc effroyable. Par contre, là en l'occurrence c'est ma fille, mais ça aurait pu être d'autres enfants. Je trouve complètement délirante cette imagière et la richesse du truc en fait. Il se passe une quantité d'événements complètement incroyables et avec des détails extrêmement précis à chaque fois. Et c'est un peu rigolo, puis c'est un peu effrayant aussi parce que... voilà. Je sais pas ce que tu penses d'un truc comme ça. J'ai l'impression que moi il y a un petit côté cathartique, on dit comme ça. Oui, cathartique
ça. Ouais, mais c'est ça.
C'est assez incroyable. Voilà, c'est un truc qui me...
Et c'est très curieux parce que je retrouve plein de jeux ou plein de mots d'enfant d'Adèle. Et c'est rigolo parce que dans ce que t'as écrit, le père jamais cette feuille, elle est trop belle. C'est-à-dire qu'il y a tout un enchâssement de préoccupations, de peurs inconscientes, d'être attaqué, de trucs qu'ils ont dû entendre, donc de peur d'enfants, mais vite réglé, hein, parce qu'on tuera les soldats, mais qui révèle quand même, du coup, des angoisses, celle de l'abandon, qu'on retrouve partout, hein, le mythe du petit poussé, tout ça, mais regarde la Reine des Neiges, les deux sœurs, elles perdent leurs parents, il y a ça, ce désir de... ce désir d'autonomie, mais en même temps... si besoin, il y aurait quand même une force tutélaire qui viendrait quand même nous apaiser ou je sais pas quoi. Parce que c'est rigolo, il y aurait quand même un ordinateur pour pouvoir regarder les films.
Il y a des petits éléments de confort comme ça.
Oui, parce que en fait, t'as tout là-dedans. C'est super ce petit texte parce que t'as les peurs inconscientes, mais t'as également les éléments de plaisir qui peuvent jalonner leur journée et qu'il faut aussi rajouter. En fait, c'est marrant parce que cette maison, elle est presque... C'est très beau ce que tu as lu parce que j'ai l'impression que la maison-là, un psy dirait que c'est une sorte de demeure de l'inconscient. Dedans, il y a tout. Il y a tous des tiroirs. Il y a les petits frères. Il y a l'école.
Il faut l'envoyer les petits frères à l'école. Elles n'y vont pas parce qu'elles sont occupées à se combattre, je cite, avec les soldats.
Mais tu vois, le désir, ils combattent et ils envoient comme s'ils étaient un peu des parents. Et c'est-à-dire, il y a aussi le désir dans les jeux. Mais souvent, chez les petites filles, j'avais vu ça aussi chez Adèle, c'est-à-dire ce désir d'être autonome, d'assumer des responsabilité, on a le ménage, on gère les petits frères, on va tuer les soldats parce qu'il faut pas qu'ils viennent. Mais c'est il y a un désir d'autonomie, d'être plus grand qu'on ne l'est. C'est une projection en fait finalement.
Mais
c'est super beau ton texte.
Alors du coup, parce que en fait, moi ce qui se passe, c'est qu'il y a nos enfants qui imaginent ce genre de choses, qui imaginent faire des combats, des trucs comme ça. Puis du coup, moi dans mon boulot, je rencontre des enfants qui ont vécu pour le coup des parcours comme ça, mais dans la réalité pour le coup, qui ont vraiment vécu des trucs. Moi en enchaînement et un peu en miroir, j'avais travaillé, c'était en 2020, avec une jeune fille qui était en CM2 à l'époque. On avait été interviewer des mineurs isolés à l'époque où le service était encore à côté, là maintenant là où il y a la mairie de quartier à Nancy. D'accord. Le SAMI, le service d'accueil des mineurs isolés. C'était dans un projet plus vaste, hein, mais sur le concept de village en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un village en France? Qu'est-ce que c'est qu'un village en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que c'est qu'un village au Liban? Qu'est-ce que c'est qu'un village? Et en fait, voir que ça recouvre pas du tout les mêmes réalités, qu'on parle pas du tout la même chose en fait d'un endroit à un autre. Et bref, elle me disait. Moi je serai toujours syrienne, tu sais, je veux pas oublier mon pays avec tout ce qui se passe là-bas et ma famille. Quand je serai grande, j'aimerais bien y retourner pour aider les gens, mais ma ville c'est Beyrouth, parce que comme beaucoup de réfugiés syriens, ils sont passés par le Liban un bon moment avant de venir en Occident. Mais ma ville c'est Beyrouth, c'est là que j'ai habité quand on est parti de la Syrie à cause de la guerre, c'est là qu'il y a mon école et toutes mes copines, et j'étais triste quand ça a explosé. On se rappelle du port de l'explosion, port de Beyrouth, et j'étais triste j'étais triste quand ça a explosé, j'ai eu trop peur pour elle, elle était déjà en France. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a dit à la fin parce que ça raconte un petit peu aussi, ça rejoint aussi la question des identités. Oh, j'ai pas fait mon actualité réussite éducative.
Bon, on fera la fin.
J'ai appris parce qu'en fait, il y a un rapport.
Il y a un rapport.
C'est marrant. Ça, comme quoi, c'était vraiment pas bien préparé. J'ai vraiment respecté le thème.
Les auditeurs ne le savent pas.
Elle termine en disant, mais en fait, ma ville maintenant, c'est Nancy. J'aime trop bien Nancy, c'est trop beau. Je veux me marier Place Stanislas. Mais en fait, ma ville, c'est Beyrouth et c'est Nancy. Et mon pays pour aider, sous-entendu qu'il faut aider, c'est la Syrie. Et mon pays qui m'aide, c'est la France. Et ça m'avait vachement calmé cette fin de... Enfin voilà, après c'est toujours pareil, hein, moi tout ce que je raconte là-dessus, ce que je vis, ce que je vois, c'est aussi une façon de montrer la complexité des enfants, la complexité des parcours migratoires, y compris des adultes, et aussi essayer d'apporter un peu de complexité dans un cadre général où on est soumis beaucoup à des discours extrêmement simplistes et extrêmement binaires sur ces sujets-là, et de montrer effectivement des choses qui sont en réalité... presque toujours beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Comme elle avait fait dans sa tête à 10 ans, elle avait mis sa ville d'accueil qui est devenue sa ville, mais sa ville, c'est quand même l'autre ville où elle était avant. Elle a quand même son pays qu'il faut aller aider, mais elle a quand même la conscience du pays qui l'aide. C'est, je trouve ça assez excellent. Ouais. Ça fait penser à... Ça fait penser à qui ? Ça fait penser à... Big Flo et Oli dans le rap français.
J'aurais pas pu t'aider. Hein.
Qui ont une chanson là-dessus qui est assez intéressante où ils expliquent toute la contradiction qu'ils ont par rapport à la France. C'est-à-dire à la fois le pays qui est pas, je me rappelle plus du texte exact, mais le pays qui fonctionne pas bien sur tel thème, mais en même temps le pays qui m'a envoyé gratuit en colonie de vacances quand j'étais gamin. Et toute cette et en fait je retrouve un petit peu ça là-dedans et je trouve ça vraiment intéressant. Après voilà, c'est pour dire aussi qu'on a quand on croise des enfants, je pense toujours à ça. Quand on est nous adultes, nous habitants lambda d'une ville qui avons un regard sur l'immigration ou pas d'ailleurs, et quel que soit ce regard, quand on s'arrête à un feu et qu'on a un groupe d'enfants dans un quartier comme ici au Haut-du-Lièvre, comme le Champ-le-Bœuf, qui traversent le passage piéton et qu'on les voit défiler devant nous. Ben en fait, c'est ces enfants-là qu'on voit défiler. Mmh. Et c'est vrai que je me dis toujours, waouh, en fait, à chaque fois, on a souvent, pour une partie d'entre eux, un parcours bien particulier. Enfin, pour tous, il y a un parcours particulier, mais des parcours qui peuvent être parfois extrêmement compliqués, extrêmement complexes, et qui vont créer un imaginaire qui est encore différent de celui des enfants qui grandissent ici en France, parce qu'ils ont vécu des horreurs qui sont extérieures, énormes, gigantesques, et qui sont pas familiales. On peut aussi parler justement de ce qu'on peut vivre aussi dans le cadre familial, et j'ai l'impression que tout ça, ça va venir effectivement influencer les imaginaires des uns et des autres. Ce qui m'intéresserait, dans l'idéal, si on avait le temps, et si c'était notre métier et qu'on faisait ça à plein temps, ce serait de voir quels sont les traits communs qu'on retrouve oui, malgré tout chez tous ces enfants-là. Je sais pas s'il y en a, je suppose, mais ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui est toujours commun au sein d'enfance tellement différente, ne serait-ce que culturellement parlant, au départ d'ailleurs. Mais voilà, petite question comme ça en passant.
Mais je pense qu'il doit y avoir quand même un socle commun, mais qui après va varier, être nuancé, il doit y avoir des variations. Mais on retrouve quand même, j'en sais rien en même temps, je te dis ça, c'est en échange, hein, mais j'ai l'impression, du peu que j'ai pu entendre dans quelques années de vie, là, parce qu'on sait que j'ai 20 ans, hein, c'est ça la beauté d'avoir des physiques de radio, c'est que... j'ai l'impression qu'il y a quand même ce désir, tu vois, quand tu parlais des personnages imaginaires, quelle que soit l'enfance, je pense qu'il y a ce besoin d'un autre à qui parler, dont on se sentirait tellement proche, qu'on vive des horreurs ou pas des horreurs, mais j'ai l'impression que c'est... Ça peut être amplifié si on vit des choses difficiles, mais je pense que dans tous les cas, il doit y avoir ce besoin de création d'un autre qui est un peu une sorte de double, et pour partager des choses, pour les amplifier, pour se rassurer. Mais par rapport à ce que tu as lu aussi, ce qui me semble intéressant, c'est que le monde des adultes prenne conscience, je pense que parfois il essaie de le faire, mais que finalement, le monde qu'on leur renvoie, qu'on leur construit, qu'on leur fait... des fois malgré nous aussi, hein, parce qu'on est dépassé aussi, bien sûr, on fait de notre mieux, mais ça va nourrir tout cet imaginaire-là, et peut-être des peurs nocturnes. Je vais dire pourquoi, pour être concret, dernièrement on était à la foire avec Adèle, et puis on voit passer Sentinelle, tu sais, les 6 ou 7 qui marchent comme ça. Ouais. Et ben c'est bizarre, parce que pourtant souvent elle me dit, parce qu'elle entend des fois dans des choses à la radio, quand, des trucs, elle me dit, ah, c'est quand même bien chez nous, ben, on craint rien et tout. Et souvent, bah, c'est comme les adultes, hein, quand on dit que ça va, c'est souvent pour se rassurer.
Pour se rassurer, ouais, carrément, parce qu'on a peur que ça n'aille pas.
Voilà, c'est ça.
Tout à fait, ouais.
Et je me suis rendu compte, parce qu'on les avait à peine doublés, elle me dit, ah, c'est quand même inquiétant. Et concomitance avec ça, on était il y a 3 jours à visiter Paris, je voulais lui montrer la vidette, tout ça, une expo, machin, un truc. Et là, elle a appris la notion de Vigipirate. Parce que c'est vrai que rentrer à la galerie de l'évolution au Jardin des Plantes, rentrer à la Villette, rentrer peu importe où, bah à la Tour Eiffel, n'en parlons pas maintenant, parce que maintenant c'est terrible, d'autant plus qu'il y a une dame de la Tour Eiffel qui est venue faire un sondage en nous demandant si on se sentait rassuré. Du coup, parce que...
Le meilleur moyen de te stresser.
Bah oui, c'est ça. Parce que, tu sais, moi
si
quand j'étais à Paris au lycée, il n'y avait pas. Tu pouvais aller sous la Tour Eiffel, il n'y avait rien. Et maintenant, il y a des vitres partout. Et donc la dame disait, est-ce que vous vous sentez rassuré avec les nouveaux trucs? Alors je lui ai dit que ça enlaidissait pas mal, mais qu'on se sentait rassuré. Du coup, Adèle, entendant ça, rassurée, bah pourquoi on a besoin de l'aide.
Bah oui, c'est ça, pourquoi on a besoin de l'aide.
Et du coup, je me rends compte par rapport à ce que tu viens de lire, que je ne serais pas surpris que des fois, dans des mots d'enfant, dans des jeux, finalement, tout ça, ça rejaillisse parce que c'est mélangé. Parce que chez un enfant, ça peut être amplifié. Parce que entendre des trucs, mais on leur explique pas assez. On entend danger, vigipirate, mais pourquoi? Et souvent, on grossit les choses, on les amplifie tant qu'on nous les explique pas. Parce que, à force d'être fouillé son sac 15 fois dans la journée par des gens en armes, tu te dis, moi, je me mets à la place d'un enfant qui n'a pas les tenants, les aboutissants, etc. Finalement, qu'est-ce que ça doit être dans leur tête?
Mais en fait, enfin, moi, je suis confronté assez régulièrement et encore plus depuis quelques mois. Aux inquiétudes des ados en particulier, hein. Les ados ils sont vraiment et moi j'ai posé la question à des jeunes avec qui j'ai un contact assez facile pour certains, ceux qui ça passe très bien, pour leur demander qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce que vous dites, et ils me disaient que clairement le sujet de la géopolitique à l'heure actuelle, et en particulier États-Unis, Iran, etc., puis aussi Russie, Ukraine, c'est un truc qui revient mais énormément dans les discussions. Et ils me disaient que j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il disait qu'en gros tout le monde raconte plein de trucs et tout le monde a toujours entendu un truc à raconter, mais ce jeune là alors ça reste le point de vue d'un seul jeune sur ses camarades, me disait qu'en vrai tout le monde sait bien qu'en vrai on sait pas exactement et qu'on sait pas comment savoir correctement, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, comment on fait pour vraiment savoir de quoi on parle. Et j'allais dire, même pour nous les adultes, ou des adultes qui sont qui s'intéressent au sujet de comment l'information est travaillée, comment elle est donnée, etc. Qu'est-ce qu'est l'information, qu'est-ce qu'est la propagande, qu'est-ce qu'est une source. Mais même là, en fait, des fois, ça devient un peu confus, compliqué à suivre. Et vraiment, il y a une vraie angoisse. Et depuis 2022, cette angoisse-là, elle a fait que grimper, je le trouve. Et là, depuis quelques mois, ça occupe vraiment beaucoup d'espace. Et c'est important de le dire parce que dans la vision stéréotypée que les adultes peuvent avoir des ados, s'ils ne travaillent pas avec des ados, même s'ils ont des ados, mais des enfants chez nous, enfin, nos ados sont pas comme ils sont, on a l'impression effectivement que ça leur passe au-dessus et puis qu'on exagère quand on dit effectivement qu'il y a des grosses angoisses chez les ados, qu'il y a des questions de santé mentale qui se posent et qui sont pas que des choses, des causes internes, mais effectivement qui sont liées à un environnement, à une ambiance, à quelque chose d'externe. Oui, vraiment, c'est véridique. Il y a des vraies inquiétudes. D'autant plus que dans les quartiers où on est ici en particulier, moi j'ai des gamins qui ont des parents. Enfin, je pense à un jeune en particulier que je vois toutes les semaines, son père est au front en Ukraine. C'est-à-dire que son père, du jour au lendemain, on peut lui annoncer qu'il a été tué au front. Donc, c'est-à-dire que c'est pas seulement ces causes externes qui peuvent être des angoisses énormes, mais qui restent une sorte de couperet. Lui, le couperet, il est déjà là. Enfin, très clairement, il est là, quoi. Il est, y a pas de... Et même entre les jeunes, ça crée des choses un peu bizarres, parce que ils ont des expériences qui sont tellement pas les mêmes. Voilà. Et là-dessus, moi, j'ai pour finir, j'avais bossé en foyer il y a longtemps, et il y a justement un mineur isolé qui était là, qui avait autour de 16-17 ans, et pas comme souvent, c'était difficile de savoir quel âge il avait exactement. Par contre, il avait été enfant soldat, et je me disais, mais j'ai dans ce foyer, dans deux chambres à côté, j'ai une gamine qui vient du PIO, en l'occurrence elle venait de là, mais c'est pas pour viser spécialement le PIO, mais qui venait du PIO et qui était là parce que violence intrafamiliale, parce que problème d'alcoolisme dans la famille, parce que etc. Enfin un placement, une situation familiale vraiment ultra dégradée, qui était extrêmement mal et qui était une gamine qui était sur le point d'exploser. Et dans la pièce, dans la chambre d'à côté, on avait ce gamin-là qui avait été enfant soldat et qui lui avait été amené en fait à tirer sur des gens. Et on se dit, mais waouh! Enfin, moi, j'étais en stage à l'époque, ça m'avait vachement choqué, en fait, parce qu'on leur demandait la même chose. Et on leur demandait de respecter les mêmes choses. Et ils étaient. Or, ils sont dans des réalités qui sont tellement différentes et qui sont effroyables dans les deux cas. Hein. Et ça m'a vraiment marqué de me dire, mince, en termes de travail social, est-ce qu'on n'est pas en train de rater un truc? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose? Bref, c'est pour dire que là, on demandait à un gamin de 16 ans, 17 ans, 18 ans, je sais pas, d'être. Un gamin de 16 ans, 17 ans du temps, alors qu'il avait déjà une vie de soldat derrière lui. Donc c'est un peu compliqué, en fait, de lui demander ça. Et paradoxalement, c'était un de ceux qui posait le moins de problèmes dans le foyer, d'ailleurs. Mais voilà, c'était pour mettre un peu ça en perspective et montrer aussi que, du moment qu'on travaille avec des jeunes, je pense que c'est important, et en particulier dans des situations un peu précaires comme ça, ou très précaires, c'est important d'avoir toujours ça en tête. C'est-à-dire que, des fois, on mesure pas du tout ce qui s'est passé pour le jeune qu'on a en face de nous. Et si on ne le mesure pas, on risque de tomber complètement à côté de la plaque, qu'on soit éduc, qu'on soit prof, qu'on soit animateur, qu'on soit etc., etc. Alors je dis pas qu'il faut toujours tout savoir, mais je pense qu'il y a une prudence à avoir et une forme de retenue à un moment en se disant Qu'est-ce qu'il y a derrière un comportement? Qu'est-ce qu'il y a derrière un sourire? Qu'est-ce qu'il y a derrière une parole? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir pas mal de choses.
C'est... Pardon, c'est parce que tu allais lancer une pause musicale.
Éventuellement oui, alors. Parce que le temps passe.
Et alors juste, je vais aller tout vite pour te répondre, pas te répondre, mais enchaîner. C'est que parce qu'il y a plein de trucs dans tout ce que je viens de dire, c'est d'une richesse. À chaque fois, il me balance plein de trucs et c'est d'une. Je pense que tu as totalement raison quand tu parles des jeunes et leur anxiété qu'on mesure pas toujours. Surtout alors quand tu rentres dans cette période de pré-ado, même ado, où ils sont des éponges à tout,
oui, déjà
une hypersensibilité, j'angoisse le monde, que, où vais-je, où cours-je, etc. Mais parce que j'ai entendu parler d'un truc que nous on n'avait pas, il me semble, que moi j'ai pas. En fait, toujours pas, mais qui apparemment, de ce qu'on entend, l'éco-anxiété. Tu vois, il y a les guerres, mais il y a ça aussi, l'éco-anxiété, il paraît. Moi, j'en sais rien, mais il me semble qu'on entend beaucoup plus parler quand il y a des sondages, que les jeunes sont très touchés par ça. Et ce qui est révélateur aussi, là aussi, tout ça, je ne maîtrise pas, c'est ce que j'entends dans les médias, mais le fait que beaucoup de jeunes qui ont été sondés comme ça disent qu'ils ne veulent pas d'enfants.
Mmh.
Or, il me semble, tout à l'heure, tu me demandais quand on jouait, quand tu étais petit, bon, moi, j'avais plein de petits frères, des choses comme ça, petites sœurs, et du coup, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, j'ai toujours été dans le pouponnage, tout ça. Mais du coup, ça me revient par rapport à la question que tu m'as posée en début d'émission. Moi, dans mes jeux, souvent, je me projetais et j'avais envie de petit d'avoir plein d'enfants, tout ça. Et le fait qu'aujourd'hui, je pense que dans leur projection, apparemment, hein, de ce que j'ai entendu dans les médias, ils soient plutôt réfractaires au fait d'avoir des enfants, non pas parce qu'ils aiment pas les enfants, mais par peur de ce qu'ils vont leur laisser comme monde et tout. Je me dis, c'est quand même révélateur de sacrées angoisses personnelles, quoi.
Bien sûr.
Parce que le fait d'avoir des enfants, c'est avoir une certaine confiance quand même en la suite
dans l'avenir, dans
de
la
l'humanité.
Suite de ce qui va se passer après, ouais.
Déjà, d'une. Et alors, juste dernier truc, par rapport à ce que tu viens de dire là, en disant on est face à des jeunes, on sait pas trop ce qu'ils vivent et tout. C'est vrai qu'on a les pédagogues ou n'importe qui, au sens très très large du terme, donc parents, etc. On a cette problématique de, ben, surtout à l'école, on est dans l'équilibre ténu entre la massification et la pédagogie différenciée. Mmh. Et des classes à 40, et parce que, petite parenthèse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et ça rejoint exactement ce que tu dis sur les guerres et tout, même si c'est bien, bien, bien moindre et mineur par rapport à ce que tu viens de relater, de ce que vive l'enfant dont tu parlais tout à l'heure, là, et son papa qui est malheureusement au front. Bien sûr, ça n'a rien à voir, sans commune mesure, voilà. Mine de rien... Moi, j'ai décroché l'école et j'ai été viré en fin de cinquième. Pourquoi ? Dans un collège que tu connais bien, ou tu sais vite d'ailleurs. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que je ne comprenais pas, et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, j'ai discuté avec d'autres après, comme ça, comprenais pas que les enseignants, qui pour moi incarnaient donc le monde des adultes, me parlaient de mathématiques, d'histoire, de français, alors que je venais de vivre des horreurs la veille. Mmh. Et je me disais, mais... pourquoi ils s'intéressent pas à moi? Pourquoi ils m'aident pas? Pourquoi ils viennent pas à mon secours, etc., etc. Et qu'ils me parlent de trucs, là, qui sont bien moins importants. Et cette espèce d'incompréhension que le monde des adultes suit sa route, alors que nous, on vit des horreurs, crée un rejet du monde des adultes, donc de l'école, donc je travaille pas, etc., etc. Hein, parce que souvent, le fait des décrocheurs scolaires, c'est souvent des signaux qu'ils envoient. Et on n'a pas forcément le temps d'être à l'écoute de toutes les singularités dont tu viens de parler, parce qu'il y a cette massification, parce qu'il y a 35, 38, enfin, par classe. Et donc c'est pour ça que ça me touche ce que tu viens de dire là, parce que c'est pas facile à faire. C'est vrai que c'est notre boulot d'être différencié, mais c'est pas facile.
Bah oui, oui, oui. C'est clairement. Alors je vais partir juste avant la pause, qu'on pourra enchaîner directement dans la foulée sur. En fait, on reste sur la même thématique de. On a peur de l'avenir, mais en même temps, des fois, ils me font rire. C'est très cool. On était en sortie à un moment et on était sur un lieu qui était à proximité d'un terrain militaire et il y avait un bâtiment un peu désaffecté. Et ils sont allés regarder par les soupirails parce que ça les taraudait vachement. C'était des collégiens. Et il y en a un qui a demandé alors tu vois quelque chose, il y a des fusils. Et l'autre, il lui a répondu bah non, il y a des chaises. Et tu as dit mais des chaises, mais ça sert à rien. Et le premier lui a répondu bah si, quand même, quand il y aura la guerre, au moins on pourra s'asseoir. Et j'ai dit c'est parfait. Donc il y a la fausse angoisse là qui reste. Et puis en même temps, bah quand même on pourra s'asseoir, c'est
très pragmatique.
Cool. Très pragmatique. On va remonter un petit peu plus tôt dans l'enfance avec notre petite pause musicale, monsieur Renaud.
Ah oh.
Ouais.
Sur terre, Il était dans le ciel de nos pauvres marelles. On avait 10 ans, puis on ignorait qu'un jour on serait grand, puis qu'on mourirait. L'eau des caniveaux nous faisait les rivières, où tous nos bateaux naviguaient pépère. Aujourd'hui les moineaux évitaient de tomber, le nez dans le ruisseau, la gueule sur le pavé. À moins de pas trop craindre les capotes usées, les vieilles seringues et les rats crevés. L'été sur les plages, c'était le débarquement. J'étais les GI, c'était les Allemands. Pistolet à flèche, carabine en bois. Et ma canne à pêche, c'était un bazooka. Dans les vieux blocos, on faisait notre QG. C'était bien craignos, qu'est-ce que ça chlinguait. Les filles venaient jamais parce qu'elles craignaient qu'on veuille les tripoter. Elles avaient raison. Quand tu ramassais un gros coquillage, eh ben t'entendais la mer, le vent du large. Aujourd'hui t'as qu'une symphonie 4x4 qui vont dans les dunes comme un Ouarzazate. Le son des tocards échappait hélas du Paris-Dakar, du rallye de la classe. Inscrit pour tout le mois de juillet à des cours de gym et au club Mickey. En ce temps-là, Disney faisait pas les poches ni les porte-monnaies, les millions de mioches. C'était le Figaro qui organisait le concours de château de sable que je gagnais. Aujourd'hui, ce journal est l'ami des enfants au Front National et au Vatican. T'allais le baquet, tu buvais peinard. Une tasse d'eau salée, pas une marée noire. Creusant le sable blond, tu ramenais des coques. Pas des champignons ni des gonocoques. Dans les bouteilles vides, il y avait des messages. Pas les pesticides d'un dernier naufrage. Le jour où je mourirai, puisque c'est écrit qu'après l'enfance, c'est quasiment fini. Devant l'autre Charlot, j'espère arriver. La boule à zéro et la morphonée. Du mercurochrome sur mes genoux pointus, qui connaissent l'arôme du sirop de la rue. Lui qui a eu tant de mômes qui les a perdus.
Jusqu'à 18h, réussite éducative sur RCN, animée par Chamallow et David Richard.
Réussite éducative avec un thème super profond. Je pense que, chers auditeurs, vous devez être très attentifs. Là, c'est super, là, j'adore. Hein. Mais que vous dire ? Oui, on a repris comme ça sur le chapeau de roue parce que déjà, première fois, non, c'est pas, je dis ça à chaque fois alors que c'est pas tout à fait vrai, mais quand même, une pause musicale qui pourrait être, qui je me demande si elle n'y a pas déjà été, dans Vie associative. Merci David. Hein. Je sais que c'est pas rien pour moi, mais quand même, ça me touche.
Moi, j'en dis juste un mot rapidement. Ah, je défends vachement Renaud parce que je dis, il a quand même bien donné de sa personne, malgré effectivement voilà, la vieillesse qui se passe pas toujours bien pour tout le monde, et pour lui c'est compliqué, et ça fait, voilà, je ne cache pas que depuis une vingtaine d'années, si ce n'est plus, je m'intéresse plus tellement à ce qu'il fait parce que je trouve que c'est moins intéressant. Néanmoins, ça enlève rien à la qualité de ce qu'il a, enfin à la qualité, à l'intensité je dirais presque, de ce qu'il a pu faire auparavant, moi qui m'a quand même beaucoup marqué. Et c'est vrai que parmi mes amis, j'ai plein de gens qui disent ouais, Renaud maintenant machin, laissons-le tranquille. Ouais. Juste laissons-le tranquille, il a fait sa part.
Et puis la mémoire, un jour tu nous feras une émission sur la mémoire, parce qu'on parle des jeunes, tu vois, j'en parlerai aussi à Claire, tiens, encore soit la semaine prochaine, notre chroniqueuse adorée.
Hein. Ouais,
C'est cette histoire de quand même, les jeunes, des fois, quand il m'arrive de discuter avec des groupes de jeunes, c'est qu'ils trouvent, et on était pareil à leur âge, excellence que ce qui est de leur époque à eux, ça c'est normal, on est d'accord. Parce que sinon on serait vraiment réac de dire, voilà. Mais c'est la non-connaissance de ce qui précède. Je me demande si Alors moi, c'est peut-être particulier. Toi, c'est, je sais pas, parce qu'on sait pas trop, hein, quand on parle de nos cas particuliers, on sait pas trop ce qui est généralisable ou pas. Mais moi, du fait que peut-être mon père me faisait écouter plein de trucs dans la voiture, je me tapais entre les grosses têtes, les machins, les trucs, j'avais une connaissance de tout ce qui précédait, même si c'est pas ce que moi j'aimais. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je discute, cette histoire de mémoire, là, quand tu parles de Renault, j'ai l'impression, c'est un exemple, mais que beaucoup parleraient de Renault d'aujourd'hui sans plus donner de crédit ou de nuancer par rapport à tout ce qui a été avant. Parce que mine de rien, la chanson que tu viens de passer, tous les premiers albums, sans parler de c'est la plus belle chanson du siècle, hein, celle qu'il a failli pas mettre sur l'album et que je passe pratiquement au moins une fois par mois, bien sûr, filer des coups de pied à des pigeons idiots, leur donner des coups de pied pour des fois, je sais plus quoi, j'arrive pas à improviser là, mais etc. Hein, Mistral gagnant, voilà, etc. Il y a des textes, mais magnifique, et dans l'engagement, dans les idées, même dans l'écriture. Georges Brassens avait fait des beaux compliments aussi là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'on résume tout à aujourd'hui. Donc c'est bien de rendre hommage.
Il y a une histoire d'immédiateté qui est un petit peu compliquée et qui rentre d'ailleurs dans la façon dont les enfants voient le monde, hein, aussi d'ailleurs.
Ouais, ça rejoint ce qu'on disait.
Ça rejoint.
En tout cas, bravo, merci.
La question de la justice aussi, elle revient souvent dans la façon dont les enfants autour de nous voient le monde. Je reviens en 2021, je donne toujours la date parce que c'est important, parce qu'il s'est passé tellement de trucs depuis, on va dire depuis 2020 et le premier confinement et tout ce qui s'est ensuivi en termes de conflits, de trucs, que finalement en 5 ans, en 5-6 ans, le monde a radicalement changé. Donc c'est important de redonner le contexte. En 2021, j'étais avec une gamine, on était descendu en ville pour un rendez-vous, je l'avais accompagnée, elle avait 11 ans à l'époque. Voilà, une famille extrêmement précaire. Et en revenant à la voiture, je fais un crochet pour lui montrer la Villa Majorelle, parce qu'elle était dans le quartier. Et puis la rue des Goncourt, c'est une rue qui est tout près de la Villa Majorelle, qui est pas très connue. Mais en fait, il y a un alignement de façades et de maisons qui est vraiment magnifique. C'est vraiment très très beau. C'est très harmonieux, on va dire. Et elle était là, très pensive devant les façades. Des fois, elle était un peu... Enfin, elle disait, c'est trop beau et tout, etc. Et à un moment, elle a eu un silence et elle me fait... mais ils ont de l'argent, les gens qui habitent ici. Alors je lui dis, bah ouais, ils sont pas à plaindre, je pense, mais c'est super beau. Et elle me dit, oui, c'est beau, c'est très harmonieux, ça fait rêver et tout, mais quand même, c'est pas parce que c'est beau que c'est juste. Et je me suis dit, waouh. À 11 ans, cette conscience-là, ce truc-là, pareil, encore une fois, dans ma tête, hein, sur les discours très simplificateurs, sur les jeunes en général, et sur les jeunes des quartiers en particulier, je me dis, oh là là, mais quel talent.
Oui, c'est vrai.
C'est marrant, cette conscience. Enfin, c'est marrant. Je sais pas si c'est marrant, mais j'aime bien parce qu'on les entend réfléchir en direct, en fait.
Oui.
On les entend penser en même temps qu'ils parlent. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, voilà, ça, c'est un exemple qui m'a marqué aussi. Et puis, pour revenir un petit peu sur les parcours, ou non, je vais peut-être revenir sur autre chose. On avait fait une fois une conversation libre, alors j'avais des choses à en dire par rapport à ce qu'on fait au collège La Fontaine, à la journée prolongée en particulier, mais là j'aurais pas le temps de le faire, donc on continuera la semaine prochaine, et j'en reparlerai la semaine prochaine, je ferai un lien avec ça. Mais on avait déjà tenté il y a quelques années, là c'était en 2017, donc ça remonte quand même un peu, la conversation à bâton rompu sur l'actualité avec des collégiens, et moi j'avais en 2017, hein, on se recale dans ce contexte-là, les élections présidentielles, etc. C'est le présidentiel 2017. Je suis en train de compter.
17,
oui, c'est ça. On avait passé une heure comme ça à discuter. On n'avait pas limité la parole parce que le but, c'est de pas la limiter. Et j'avais pris quelques citations que j'avais trouvées intéressantes. Il y avait j'avais des jeunes qui avaient sorti, moi, les élections, ça me fait beaucoup plus peur que les attentats. Macron, je l'aime bien, il a une tête sympa, j'aime bien sa voix, il est franc, c'est un combattant de la politique, c'est intéressant à réécouter aussi des fois avec le ce qui s'est passé, et pareil, quoi qu'on en pense, en réalité, c'est intéressant de voir comment il pouvait être vu en 2017 par un ado, et par rapport au parcours qu'il a fait en tant que président de la République. Je suis quand même mieux en France qu'au Congo, parce que là-bas, à chaque élection, il y a la guerre, ça veut rien dire une république démocratique. Ça aussi, au niveau de conscience sur les termes, sur. Je pense que lui-même a pas conscience de la pertinence de ce qu'il est en train de dire à ce moment-là, quoi. Enfin, peut-être que je le sous-estime aussi, je ne sais pas. Si j'avais le droit de voter à 16 ans, moi, je voterais pas, je saurais pas quoi faire, j'aurais trop peur d'être manipulé, je serais totalement en stress. Ce qui, en fait, est une bonne nouvelle. C'est ce que je me suis dit aussi, le fait de dire j'aurais peur d'être manipulé, ça veut dire qu'on a conscience que c'est possible. On est 16 ans ou on en est 80, hein, d'ailleurs. Un président, ça doit juger et changer le monde et plaire aux Français. Voilà, un programme pour le prochain présidentiel, si quelqu'un est intéressé. S'il n'y avait plus de président, il y aurait peut-être plus de guerre parce que plus personne donnerait des ordres. C'est intéressant. Moi, j'ai rien contre les gens qui sont racistes, mais j'ai jamais compris à quoi ils servent. L'écologie, si c'est juste trier des papiers, c'est pas terrible.
C'est chaud.
Il y a des trucs excellents.
Il y a des bobos qui viennent de prendre cher.
Il y en a un qui disait, les gens. Alors, pareil, hein, en trame de fond, on a toujours le fait qu'on a beaucoup de jeunes qui sont originaires d'autres pays, qui sont arrivés parfois sur une immigration régulière, parfois en tant que réfugiés, parfois dans des conditions terribles. Il y en a d'autres qui sont arrivés, qui sont depuis 2, 3, 4, 5, 6 générations. Les gens qui quittent leur pays, ils ont honte de partir, parce que c'est pas drôle d'arriver dans un pays qu'on connaît pas, même un pays bien comme la France. Et puis, je vois que le temps défile et qu'on arrive à la fin de l'émission, mais il y avait sur cette séance où on était nombreux dans une salle, puis il faisait chaud, puis on était un peu, bon, c'était un peu étouffant à la fin. Ouais, 30 ados dans une salle pendant une heure à parler comme ça, à la fin, on a envie de sortir. Il y en a une amant qui a fait, je suis claustromorphe, là il faut que je respire dans mon pull, est-ce que je peux sortir? Et on a terminé là-dessus, et c'était vraiment un chouette moment. Donc voilà, j'ai plein de citations comme ça, j'en réutiliserai plein, parce que là j'ai même pas tout pris et j'ai pas eu le temps de tout raconter. Je propose qu'on continue peut-être la semaine prochaine en tirant un peu le fil aussi de la chronique de Claire qui doit nous rejoindre pour la prochaine émission. Et bah voilà.
Merci David.
C'était une émission pas préparée.
Bah moi je pense qu'elle était riche.
Des morceaux de jeunes dedans, plein de
morceaux
de jeunes.
Je suis sûr que les auditeurs doivent être en train de méditer eux-mêmes sur leur enfance, sur leur imaginaire.
Peut-être.
C'est chouette. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci David.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Jean-Luc à la technique.